Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Pierre Brunel, bonjour.
Bonjour.
Merci de poursuivre votre série sur la littérature comparée avec cette seconde émission sur l'Odyssée et Ulysse.
Merci à vous pour les deux choses.
Nous parlerons du retour et puis ensuite nous parlerons d'Ulysse moderne et paradoxal avec tous ces écrivains qui vous sont si familiers. En ce qui concerne le retour, Kundera avait appelé ça le grand retour.
C'est cela. Il y a d'ailleurs, dans la littérature contemporaine, un certain nombre de livres qui tournent autour du retour, qui s'intitulent parfois « Le retour », tout simplement. Et la question qui me semble poser à cet égard, c'est exactement celle que pose Kundera dans le livre auquel nous allons nous intéresser nécessairement, que j'ai la chance de connaître grâce à vous, car je ne lui avais pas prêté assez d'attention, « L'ignorance », un roman écrit directement en français et publié en 2005. Cette question, elle est la suivante, je cite Kundera, « L'Odyssée, aujourd'hui, serait-elle concevable? L'épopée du retour appartient-elle encore à notre époque ?» Donc le sujet de l'Odyssée est-il quelque chose de complètement anachronique, bon pour les classes d'humanité ou pour les bibliothèques de littératures antiques, ou bien est-ce un sujet qui nous concerne aujourd'hui? Je crois que c'est le sujet par lequel nous devons aborder la question qui est au centre de cette émission.
Aujourd'hui, oui, mais comme toujours, et après la guerre, c'est pour ça que je pense à l'imperfite.
Alors moi, j'entendais aujourd'hui au sens large.
Hein. Oui, mais
dans la période contemporaine, dans la période qui m'a presque vu naître. Hein. Et effectivement, nous avons un exemple relativement peu connu, je crois, un tout petit peu énigmatique. J'ai la chance d'avoir ici l'édition originale. Le mythe de Pénélope, un livre publié chez Gallimard en 1949 dans la collection Les Essais, est signé, je cite exactement, R. et M. Alain, trait d'union, Perfite. Deux livres du même auteur avaient été publiés auparavant. Ils ont été réédités sous le nom bien connu de notre ancien ministre, Alain Perfite, et sans trait d'union. Je pense que quand il a publié ses livres, avant 1950, il voulait se réserver non pas l'anonymat, mais une toute petite parcelle d'anonymat. Je pense aussi qu'il voulait associer sa propre épouse à un livre qui traitait de Pénélope.
Parce que c'était le retour du guerrier.
Parce que le mythe de Pénélope, c'est, en 1949, inséparable du retour des combattants, du retour du guerrier, comme vous dites, du retour des prisonniers, du retour de ceux qui avaient été en camp de concentration. C'était véritablement un sujet d'actualité. Et on peut bien dire, là, en reprenant la question de Kundera, c'était vraiment un sujet qui appartenait à cette époque et qui appartient encore à la nôtre parce que ce sont des souvenirs ineffaçables et que nous voyons ressurgir à chaque instant dans nos lectures, au cinéma, etc. C'est donc un livre très émouvant et s'il a choisi Pénélope, je crois que c'est aussi en hommage aux femmes, en hommage à ces femmes d'hommes partis pour la guerre et qui restaient fidèle,
irréprochable,
attentive, irréprochable. Si vous le permettez, j'aimerais citer ici un fragment de ce livre et très exactement, j'irai chercher la page où il fait l'éloge de la femme opposant celle qu'Ulysse a pu rencontrer et par lesquelles il a pu être retenu, Circé et Calypso, à cette Pénélope, une Pénélope qui était loin de lui et qui lui est restée parfaitement fidèle. Il y a une expression magnifique dans le texte d'Alain Perfite, c'était une île dans une île. Ça, c'est magnifique.
C'est un peu un diamant.
Cette Pénélope irréprochable, qui ne se laisse pas approcher par les prétendants, qui est une île dans l'île d'Ithaque.
Retour des prisonniers, retour des émigrés aussi. Et ça, on va directement
voilà, alors là,
avec
on
Kundera.
Arrive directement au livre de Kundera, L'ignorance, dont je rappelle le sujet. Il y a à l'arrière-plan de ce roman un historique de la Tchécoslovaquie, de l'indépendance en 1918 à ce qu'on peut considérer comme une libération en 1989. Je me rappelle, moi, être allé en Tchécoslovaquie une seule fois dans ma vie, en 1965, en pleine période communiste, et il y avait même une statue où Staline restait en place, même s'il n'avait plus bonne presse à l'époque, parce qu'il était sculpté en même temps que Lénine, donc on ne pouvait pas supprimer l'un sans supprimer l'autre. Donc en 1989, des Tchèques qui se sont exilés, qui sont allés les uns à Paris, c'est le cas de l'héroïne, Iréna, ou au Danemark, c'est le cas d'un des personnages masculins
Joseph.
Principaux, Joseph, reviennent. Ils en éprouvent le besoin, il y a comme un appel, il y a parfois aussi des effets de circonstance. Le compagnon d'Iréna, qui est lui un Suédois, vient faire des affaires à Prague, dans une Prague qui justement s'ouvre au commerce et s'ouvre au capitalisme, disons. Et nous avons donc l'histoire de ces retours.
Avec illusion et désillusion, et même le retour du retour.
Avec des choses très, 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 très étranges, je dirais. Mais ce qui est le plus important, c'est ce que vous soulignez vous-même, c'est que ces retours sont suivis d'une volonté de nouveaux départs et de nouveaux retours, si on peut dire, c'est d'un retour dans la terre qui a été la terre du refuge, sinon la terre de l'exil. Et c'est là, à mon avis, que se conjoignent deux influences majeures sur lesquelles, je crois, nous avons insisté au cours de la première émission. L'Ulysse d'Homère, ou de celui qu'on appelle Homère, rentre dans Ithaque et le poème s'achève sur la victoire sur les prétendants. Et quelques siècles plus tard, il y a le chant 26 de l'Enfer de Dante, avec un Ulysse qui, lui, une fois de retour, veut repartir, franchit le détroit de Gibraltar, les colonnes d'Hercule, sur un bateau avec les plus fidèles de ses compagnons et finit par s'abîmer dans l'océan Atlantique.
Oui,
un Ulysse qui n'a pas pu rester en place, un Ulysse qui n'a pas pu se contenter du retour.
Malheureux Ulysse qui a fait un beau voyage.
Voilà.
Et qui en fait...
Et Kundera, à mon avis, a joué sur ces deux aspects, sur l'Ulysse d'Homère et sur l'Ulysse de Dante. Je dois ajouter une précision, je ne sais pas si je l'avais fait la fois dernière, c'est que quelque part quand même dans l'Odyssée, dans le chant 11, l'ombre de Tirésias, l'ombre
du devin,
annonce à Ulysse que quand il rentrera en Ithaque, il repartira avec sa rame sur son épaule, mais sans en dire beaucoup plus, en laissant cela à deviner, à imaginer, à l'auditeur de l'époque, au lecteur que nous sommes devenus.
Avant que nous entamions Ulysse dans la cité, vous allez nous présenter les illustrations musicales que vous avez choisies en pensant particulièrement à Joyce. Alors, vous aviez choisi primo les Cyclopes de Rameau et puis un personnage moins connu de nous tous, en tout cas pas de moi, j'étais pas très au fait, de Luciano ou Luciano, comme vous voulez, Berio, qui est un musicien de l'électroacoustique. Et puis aussi après de Debussy, les sirènes de Debussy.
Voilà, alors les Cyclopes de Rameau, une pièce pour clavecin, qui est d'ailleurs là exécutée au piano par une grande pianiste, Marcel Meyer. C'est, disons, une illustration classique, d'un thème classique. Et à l'inverse, avec Berio, une extrême pointe de la modernité musicale, Luciano Berio est mort en 2003. C'est un des compositeurs italiens les plus importants de l'époque contemporaine. Et ce qui l'a frappé, c'est l'extrême modernisme de l'Ulysse de Joyce, même si le roman de Joyce est de 1922. Il a donc choisi d'illustrer cela musicalement d'une manière qui surprendra beaucoup l'auditeur. Il a pensé au début de l'épisode qui correspond aux sirènes dans son Ulysse. Il a renoncé finalement à mettre des titres à ses chapitres. Et ce passage commence par des mots en liberté qui paraissent être sans suite et qui préludent à ce qui va être l'équivalent de l'épisode des sirènes dans l'Odyssée. Ici, il y aura deux sirènes seulement, et non pas trois ou non pas plusieurs, Miss Kennedy et Miss Douce, qui sont serveuses dans un bar de Dublin. Mais ce qui intéressait Berlioz, c'est ce qui précédait, et ces mots en liberté, il en a usé aussi en liberté, dans un langage extrêmement neuf, extrêmement déconcertant, il faut bien le dire pour l'auditeur, mais qui va exactement dans le sens de ce qu'avait voulu faire Joyce, c'est-à-dire se situer à la pointe de l'invention en matière de littérature, comme Berlioz se situe à la pointe en matière de musique.
Mais vous avez apporté Debussy.
Alors, comme je suis resté prudent, j'ai pensé aux sirènes de Debussy. C'est le troisième des nocturnes pour orchestre. C'est le seul de ces trois nocturnes qui est pourvu d'un chœur féminin. Vous comprendrez aisément pourquoi. Et c'est une œuvre qui est antérieure à l'Ulysse de Joyce, donc il n'y a aucune relation entre les deux œuvres. Et c'est au contraire une évocation charmeuse, ensorcelante, mystérieuse de ces sirènes dont, vous le savez, l'Ulysse de l'Odyssée a réussi à éviter les dangers en se faisant attacher au mât par ses compagnons et en se mettant de la cire dans les oreilles.
Dans la cité, c'est le recueil d'un poète roumain, Ilarie Voronca, qui parle lui aussi du thème de la route, du thème du retour, de la nostalgie du paradis perdu. Et ensuite, nous verrons la cité de Joyce avec Dublin. Mais en ce qui concerne Voronca et même peut-être Joyce, est-ce que c'est une cité réelle ? Est-ce que c'est pas l'existence, le torrent de la vie, qui sont en fait beaucoup plus abstraits qu'une cité réelle.
Alors, avant d'aller dans votre sens, car vous avez parfaitement raison, je voudrais dire quelque chose, je voudrais peut-être apporter quelques précisions et commencer par un élargissement. Il se trouve que nous avons consacré une émission récemment à Ovid, à ce lieu au bord de la mer Noire, Tomis, où il a été exilé.
Et sans retour. Lui.
Sans retour, et où il est mort, hein, sujet des tristes, sujet des pontiques, etc. Et il se trouve que dans son aventure homérique, Ulysse va vers là. C'est dans le chant 11, et déjà à la fin du chant 10, quand, sur le conseil et même l'injonction de Circé, il se rend au pays des morts pour évoquer les âmes des morts. Et c'est là qu'il évoquera en particulier l'âme de Tirésias. C'est là aussi, nous aurons besoin de ce détail tout à l'heure, qu'il voit apparaître devant lui l'ombre de sa mère, Anticléia, alors qu'il ne savait même pas que sa mère était morte depuis son départ d'Ithaque. Il y a donc un Ulysse au bord de la mer Noire, déjà chez Homère, et ce lien est extrêmement fort dans la littérature moderne et dans la période contemporaine. Je vais vous en donner un exemple qui est
tout récent, je l'emprunte au Figaro Magazine du 15 octobre 2011, qui signale, c'est le coup de cœur du Figmag d'ailleurs, un volume qui rassemble des textes de 13 auteurs sous le titre « Odessa Transfert, chronique de la mer Noire ». Et on nous rappelle dans le compte-rendu de ce volume que les écrivains contemporains grecs, roumains, turcs ou ukrainiens fascinés par la mer Noire, dont on lit les textes dans ce volume, sont les continuateurs d'Homère et de Pushkin. Un autre détail à ce sujet, puisque je suis hanté, moi, par Rimbaud, dans Une saison en enfer, dans Alchimie du Verbe, quand Rimbaud se lance dans cette aventure extraordinaire qui le conduit au bord de la folie, il nomme le pays des Cimmériens. Donc, il a accompli un voyage au pays des morts, il a accompli un voyage qui aurait pu se terminer au bord de la mer Noire et qu'heureusement, il n'a pas voulu accomplir jusqu'au bout, se rendant compte de la catastrophe qui s'abattrait sur lui. Donc, nous avons quelque chose là qui est très marquant jusque dans l'imagination moderne et quelque chose qui est présent donc dans ce recueil du poète roumain Ilari Voronca, un recueil qui a été traduit en français par Roger Vaillant, le célèbre romancier, qui était un de ses amis, sous le titre « Ulysse dans la cité », mais dont il existait une version roumaine. Et c'est la raison pour laquelle, pour répondre à votre question de tout à l'heure, s'agit-il de Bucarest ? S'agit-il de Paris ? Il est très difficile de répondre à cette question. Ce que j'ai pu constater en relisant ce recueil, c'est que le dernier poème est bel et bien un poème où Paris se trouve nommé, où l'Ulysse dans la cité n'est pas un Ulysse revenu à Bucarest, mais un Ulysse qui vit son aventure odysséenne dans Paris, exactement comme Léopold Bloom, l'Ulysse de Joyce, vit son aventure odysséenne dans l'unique cité de Dublin. Un mot sur Voronca, parce que c'est un nom qui n'est peut-être pas familier à tous nos auditeurs. C'est un grand poète roumain, d'abord d'expression roumaine, mais très rapidement d'expression française. Il a vécu une grande partie de sa vie en France, sa courte vie en France. Il a même eu la nationalité française et il est mort tragiquement en se suicidant en 1946.
Oui, il était né en 1903 et voilà. Il s'est donné la mort en 1946. Voilà. Joyce.
Alors
parlons
voilà.
De Joyce parce que c'est le roman peut-être le plus extraordinaire de la littérature anglo-saxonne et c'est un roman très difficile pour qui voudrait l'évoquer.
C'est un roman difficile d'accès, qui a ses fanatiques, qui a aussi ses détracteurs encore aujourd'hui. Et je dirais que l'Ulysse de Joyce représente un double paradoxe. Le premier, c'est un Ulysse dans la cité. Ce n'est pas Bucarest, ce n'est pas Paris, c'est Dublin, donc la ville bien connue de Joyce lui-même, la ville où il a fait ses études, la ville qu'il a présentée dans ses nouvelles qui s'intitulent « Dubliners », « Jean de Dublin » ou encore dans le roman qui précède celui-ci, « Portrait de l'artiste en jeune homme ». Et c'est un roman qui, sur des centaines de pages, ne traite que d'une journée, la journée du 16 juin 1904. Je voudrais signaler à ce propos, et j'y tiens beaucoup, un livre à mon avis magnifique qui vient de paraître de Philippe Forest, professeur à l'Université de Nantes, mais aussi bien connu comme écrivain. Et ce livre, qui est entièrement consacré à l'Ulysse de Joyce et qui a lui-même dans les 400 pages, a pour titre « Beaucoup de jours ». D'après Ulysse de James Joyce, c'est-à-dire que ne nous y trompons pas, ce seul jour du 16 juin 1904 représente beaucoup de jours, représente aussi tous les jours qu'il a fallu à Philippe Forest pour écrire ce livre. L'éditrice le précise, il lui a fallu 365 jours pour venir à bout de l'unique journée de l'Ulysse de Joyce. Alors pourquoi ce jour du 16 juin 1904 ? Pourquoi la seule ville de Dublin, eh bien, ce jour-là,
il a
Joyce
rencontré sa future épouse.
A fait la rencontre de Nora, sa future épouse. Je fais observer tout de même au passage qu'il ne l'épousera officiellement qu'en 1931.
Et bien entendu, il y a un lien entre Joyce lui-même et un des personnages, beaucoup moins Ulysse que le Télémaque de l'aventure, nous en reparlerons tout à l'heure, Stephen Dédalus, et l'épouse qui est ici, Molly.
Pénélope qui ne ressemble pas à celle d'Alain Perfitte.
Une Pénélope Perfitte. Qui n'a pas la fidélité des Pénélopes d'Alain Perfitte. En tout cas, pas le même type de fidélité.
Alors, en fait, une journée, c'est ce que vous disiez, ce sont des monologues intérieurs qui sont le flux des consciences, le torrent de la vie, de tout ce par quoi nous passons tous dans notre intimité.
C'est un livre qui, par sa forme même, est varié. Alors, on a fait de Joyce le représentant majeur du monologue intérieur. Il y a des monologues intérieurs, ce n'est pas que du monologue intérieur. Hein. Il y a par exemple un chapitre tout à fait extraordinaire par sa forme, qui est de forme catéchétique, c'est l'avant-dernier autant que je me souvienne, c'est-à-dire une question suivie d'une réponse, et comme ça pendant des pages. Le monologue intérieur, c'est une invention d'un écrivain français, Édouard Dujardin, avec un livre qu'on a réédité, qu'on relit encore aujourd'hui, Les lauriers sont coupés, et Joyce lui a rendu hommage à cet égard en disant que c'était en lisant Dujardin qu'il avait eu la révélation de cette forme du monologue intérieur, donc de cette pénétration d'une conscience qui s'exprime directement. La difficulté, et elle existe dans le roman de Kundera, comme elle existe dans le roman de Joyce, c'est le père et le fils, c'est Ulysse et Télémaque. Je rappelle que l'Odyssée, très rapidement, nous introduit au voyage fait par Télémaque, qui est parti à la recherche de son père, hein, qui en particulier se rend chez Nestor, le roi de Pylos, pour savoir ce qu'il est advenu de son père Ulysse. Et l'Ulysse de Joyce commence aussi par trois sections qui correspondent à la Télémachie, il avait prévu lui-même ce titre, trois chapitres où le personnage est non pas encore Ulysse,
mais le fils adoptif.
Oh, c'est même pas ça, hein. Mais Dédalus, Stephen Dédalus, en fait, je dirais le représentant de Joyce lui-même, puisque dans son roman précédent, Portrait de l'artiste en jeune homme, qui était autobiographique, ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'autofiction, Stephen Dédalus revivait les aventures de Joyce jeune lui-même. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la suite, se produit à un certain moment, c'était, je dirais, un peu inévitable, la rencontre de deux individus qui ne s'étaient jamais rencontrés jusqu'ici, dans la ville de Dublin, dans les rues de Dublin. C'est Léopold Bloom, celui qui est censé être Ulysse, et c'est Stephen Dédalus, celui qui est censé être Télémaque. Mais il n'y a aucun lien de sang de l'un à l'autre. Il n'y a même aucun lien d'adoption proprement dit, en tout cas au sens légal, au sens officiel du terme. Mais, et c'est cela qui est très important, Dédalus vient remplacer le fils manquant, car Léopold Bloom
a perdu
à l'âge de 11 jours un petit garçon, Rudy. Et je voudrais dire ici, j'y tiens beaucoup parce que c'est lié pour moi à ce qui est essentiel dans l'œuvre d'écrivain de Philippe Forest, et c'est lié aussi au souvenir très fort que j'ai de cet enfant qu'il portait dans ses bras. Philippe Forest a perdu une petite fille de 4 ans d'un cancer. C'est ce qui l'a conduit à écrire son premier roman, L'enfant éternel, et ce terrible deuil qu'il a vécu. Et dans son commentaire de l'Ulysse de Joyce, quand il en vient à la mort de Rudy et à la substitution à Rudy de Dédalus comme Télémaque, il revient à son propre deuil. Et c'est l'une des raisons certainement qui l'ont conduit à écrire ce livre si remarquable sur l'Ulysse de Joyce.
Thank you.
Nous allons parler de l'épisode des sirènes chez Joyce et de l'épisode des cyclopes, parce que la demeure des cyclopes, qui est le bar de Bernard Kernan à Dublin, a un thème très important. C'est là où on voit, je parle des cyclopes en l'occurrence, que Joyce ne veut pas entrer dans les questions politiques.
Alors je dirais, si vous m'y autorisez, que les deux épisodes que nous avons retenus d'un commun accord sont deux épisodes de bar. Car les sirènes, elles sont aussi dans un bar. Ce sont deux serveuses dans un bar de Dublin. Des serveuses très avenantes, peut-être même un peu plus qu'avenantes. Hein. Il y aura un épisode qui sera encore beaucoup, beaucoup plus hard, si je puis dire, dans l'Ulysse de Joyce. Ce sont des séductrices, c'est deux sirènes. Hein. Et l'atmosphère de ce que j'appellerais le bar des sirènes est évidemment très différente de l'atmosphère du bar où va trôner, si je puis dire, le cyclope, car nous passons ici des cyclopes au singulier, à l'équivalent de Polyphème dans l'Odyssée d'Homère, le citoyen. Pourquoi le citoyen ? Eh bien, nous sommes en Irlande dans une période d'effervescence politique. Le citoyen représente le nationalisme irlandais dans ce qu'il peut avoir de plus raide et en même temps de plus extravagant, je dirais. Et il y a chez ce citoyen un abus de la parole. Il y a aussi une sorte d'agressivité par la parole qui correspond à l'agressivité du cyclope à l'égard d'Ulysse et de ses compagnons. Je rappelle que Polyphème saisit tel des compagnons d'Ulysse pour le dévorer et que si Ulysse n'était pas prudent et malin, il ne s'en tirerait pas aussi habilement qu'il ne l'a fait dans le chant de l'Odyssée qui lui est consacré. Donc un portrait qui n'est pas flatteur, qui est plutôt pour Joyce celui de l'adversaire. C'est à cause de citoyens de ce genre que Joyce lui-même a pris le parti de l'exil. Car, autre paradoxe, ce Joyce qui nous présente un Ulysse dans la cité a lui, très tôt, choisi d'aller vivre à l'étranger. Il a vécu en Autriche, il a vécu à Zurich, ce dont témoigne son ami le peintre Franz Bujen dans un livre très intéressant et très remarquable, à Turin aussi, c'est à Turin qu'il est mort en 1941. Et pourtant, il a choisi de placer dans une seule ville, dans sa ville d'origine, si je puis dire, à Dublin, son personnage d'Ulysse. Mais un personnage qui n'est pas un Dublinois pur. Un personnage qui est originaire d'Europe centrale, dont le vrai nom n'était pas Bloom, mais Virag, et un personnage qui est juif d'origine. D'où cette sorte d'insulte, c'est ainsi qu'il la conçoit en tout cas, que lance le citoyen, cyclope. Le cyclope, dans le chapitre, si l'on peut dire, parce que ce ne sont pas des chapitres dans l'épisode, qui dans l'Ulysse de Joyce correspond à l'épisode du cyclope.
Nous allons en finir et conclure cette émission avec Joyce et la Pénélope de Joyce.
Voilà,
de Molly.
Écoutez.
C'est la dernière partie, c'est un monologue, le plus célèbre alors, qui reste, je crois, du roman. Que signifie-t-il ce monologue
voilà. Alors,
de cette
femme ?
Je vous
remercie de cette question que j'attendais et dont j'avais besoin. Un tout petit point d'érudition, si vous voulez bien d'abord. Pourquoi Molly ? Eh bien, il y a dans l'Odyssée une herbe, molu en grec. Si on transcrit en français, ça donne bel et bien molly, hein, le U grec étant notre I grec. Et cette plante, c'est celle qui est donnée à Ulysse pour qu'il ne subisse pas les sortilèges de Circé, c'est-à-dire pour qu'il ne soit pas enfermé à jamais dans l'île de Circé et dans sa relation avec Circé. Et Joyce a tenu à reprendre ce mot et ça a quelque chose d'éclairant parce que, nous l'avons dit tout à l'heure, la Molly de l'Ulysse de Joyce, qui devrait être sa Pénélope, est beaucoup moins fidèle que Pénélope. Elle a plusieurs liaisons, en particulier une avec un chanteur d'opéra. Mais cela n'empêche peut-être pas qu'il y ait une fidélité quelque part de cette Pénélope à son Ulysse. Et cela n'empêche pas non plus que cet Ulysse soit protégé par Molly, équivalent du molu, l'herbe bénéfique qu'Hermès, autant que je me souvienne, a remise à Ulysse dans l'Odyssée. Alors, c'est Molly qui a le dernier mot, véritablement, mot facile à retenir, yes. Hein. Ça se termine par une série de yes, Ulysse. Pourquoi ? Oui, 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 c'est la femme, bien entendu, qui accepte le corps de l'amant. Hein. C'est clair, mais tout aussi bien le corps du mari amant. Ça n'exclut pas Bloom, ça n'exclut pas une réconciliation ou une conciliation finale de Bloom et de Molly, comme il y a retour dans le lit conjugal en bois d'olivier, d'Ulysse et de
Pénélope.
Il se trouve que dans ma carrière, j'ai une seule fois écrit quelque chose sur l'Ulysse de Joyce. C'est une étude concernant Pénélope et ça m'avait énormément intéressé de creuser cette question. Le premier amant de Molly Bloom, quand elle était encore fille d'un militaire anglais, c'était un habitant de Gibraltar. Et ce monologue de Molly, il peut très bien être un retour à Bloom, comme il peut très bien être un retour au tout premier amant, celui qui lui a fait découvrir le plaisir, comme il peut être aussi un consentement au dernier amant, à celui qui serait l'équivalent d'Antinoüs dans l'Odyssée, un Antinoüs dont Pénélope, au contraire, elle a su se
préserver.
Préserver.
Bien, merci beaucoup.
Merci.
La prochaine fois, nous parlerons de Don Quichotte et je crois que vous avez toutes les raisons de penser que Kundera pourrait servir de passant pour annoncer Don Quichotte.
Oui, parce que Kundera, comme vous le savez, n'est pas seulement un romancier, mais un essayiste, et un essayiste qui a beaucoup réfléchi sur le roman. Et autant que j'ai pu voir, en reprenant certains de ses livres ces temps-ci, il parle relativement peu de l'Ulysse de Joyce, ça n'est pas pour lui un exemple majeur. Hein. Il parle beaucoup plus de Hermann Broch, par exemple, de la mort de Virgile, qui aurait sa place dans les évocations que nous faisons ici. En revanche, il traite de Cervantes, il traite de Don Quichotte, et en particulier dans un de ses livres tout récents, qui s'intitule « Le rideau ». Je pense donc qu'il peut très très bien servir de transition de notre émission d'aujourd'hui à la prochaine et nous faire passer d'Homère à Cervantes, d'Ulysse à ce Don Quichotte qui ne lui ressemble guère, hein, sinon qu'ils ont l'un et l'autre fait la guerre d'une manière ou de l'autre, qu'ils ont l'un et l'autre eu des aventures amoureuses, il faut bien en convenir, très différentes.
Merci Pierre Brunel.
Merci.